Vous êtes sur Radio Escapade et c'est donc la dernière pour cette année. En tout cas, on l'attend l'année prochaine. C'est Mathieu qui vient pour le sens de l'actu et on commence.
Bonjour au Piémont, c'est Venol et bien au-delà et bienvenue dans donc oui la toute dernière émission du sens de l'actu de cette année, de cette fin d'année scolaire. Au passage, merci à Antoine de suggérer l'idée que je puisse venir l'année prochaine puisque ça pourrait être le cas. Je m'excuse de ne pas avoir été là le mois de mai dernier, mais je vous ai préparé un petit sujet qui me tenait à cœur pour ce mois-ci. Je voudrais vous parler du profit. Donc, parmi toutes les choses qu'on peut avoir envie de partager avec ses contemporains quand on est témoin de cette époque, anticapitaliste et qu'on souhaite participer à la transformation du monde, j'ai choisi de vous parler du concept de profit. Parce que je le trouve assez omniprésent dans nos vies et puis dans les grandes dynamiques qui gouvernent le monde. Et c'est un peu pour ça que je fais cette émission, c'est pour essayer de comprendre un petit peu toutes ces grandes dynamiques qui gouvernent nos vies. Et donc, le profit dans le capitalisme, c'est bien un facteur, un élément qui vient énormément impacter nos vies et notre organisation sociale. Donc, la question, c'est d'où vient-il? Quelle est sa place dans nos sociétés? Comment il oriente les choix politiques, les choix individuels? On va démasquer, décortiquer cette valeur qui est considérée comme un excédent naturel et spontané de toute activité économique. Alors je m'appuie sur ça, sur une lecture dont je vous ai déjà parlé, je crois, dans mes sources d'une précédente émission. Une lecture qui m'a fait voir d'un œil nouveau l'organisation du travail et plus largement, carrément, le monde. Et c'est un livre de Christophe Darmanjat qui s'intitule « L'énigme du profit ». L'auteur, c'est un docteur en économie et on va briser tout de suite le suspense. Il est de sensibilité marxiste. Et donc, dans ce petit livre, il enquête sur la provenance du profit et retrace cette enquête de façon très lisible et bien vulgarisée. Pour moi qui ai essayé, par exemple, de m'attaquer au Capital de Marx ou à d'autres bouquins d'économie, ça a été beaucoup plus simple pour moi de lire le livre de Darmanjat. Donc, on va formuler assez clairement la problématique du livre. Comment se fait-il que toute activité économique, toute production de biens ou de services semble dégager des excédents d'argent qui demeurent une fois les salaires payés, les machines entretenues, etc. Des excédents qui se retrouvent sur le compte en banque du propriétaire des moyens de production, donc du patron, qui peut à loisir les réinvestir, les épargner ou bien acheter un jet privé ou d'autres choses avec. Ça paraît bête hein, comme question. Aussi bête que de se demander pourquoi la nuit est noire ou pourquoi les enfants ressemblent à leurs parents, comme dirait l'auteur. Pourtant, l'économie, comme toute science, déteste les fausses évidences. Et l'on ne saurait se contenter de dire que cet excédent qu'on appelle profit surgit de nulle part et est créé à partir de rien. Prétendre que quelque chose est créé à partir de rien, en science, c'est pas très sérieux et l'économie, bah, c'est une science. Donc Darmanjat va commencer sa réflexion par une énumération rapide des tentatives de démonstration sur l'origine du profit. Et des tentatives, ça fait longtemps que les économistes et les penseurs réfléchissent à ça et qu'ils essayent de comprendre comment tout fonctionne. Donc la première tentative qui consiste à dire que le profit existe car dans le cas contraire, personne ne voudrait investir dans la production et l'économie s'effondrerait. Réfuter cette explication est extrêmement simple puisqu'elle répond à côté du problème. On ne cherche pas ici ce qui motive un détenteur de capital à investir, on cherche à savoir comment cet appât du gain qui le pousse à investir est apparu. Qu'est-ce qui fait qu'il existe ? On a aussi tenté par le passé d'expliquer le profit par le fait que les capitalistes parviennent à acheter des marchandises en dessous de leur valeur et à les revendre au-dessus. Certes, on savait que les marchands se volent entre eux, c'est un petit peu le quotidien, notamment dans le capitalisme, mais à la fin, il s'agit d'un jeu à somme nulle. Ce que l'un gagne, l'autre le perd, dit l'auteur. Il s'agit d'un échange entre des capitalistes qui s'excroquent les uns les autres, mais on ne sait toujours pas quelle est l'origine de la plus-value, comment elle a été créée. Des auteurs défenseurs du libre marché ont avancé d'autres théories, notamment celle sur le profit comme rémunération du risque. C'est quelque chose qu'on entend, ça vous parle peut-être, on l'entend dans les médias, on l'entend dans la bouche de personnes qui défendent, on va dire, l'économie de marché. C'est une vision assez en vogue aujourd'hui et on l'entend beaucoup dans la bouche des néolibéraux. Comme le capitaliste, pardon, en investissant son argent risque de le perdre, le profit correspondrait à une récompense de l'argent bien investi, entre guillemets. Mais si vous êtes du genre à répondre ça à la question, Christophe Darmanjat vous arrête tout de suite. Primo, un actionnaire, par exemple, ne risque que la somme investie dans l'achat de ses parts et pas sa fortune personnelle. Deuxièmement, il n'est pas rare que les capitalistes fassent peser les risques financiers sur d'autres, comme dans les partenariats publics-privés, où le contribuable doit financer le manque à gagner d'une entreprise. Par exemple, la ville du Mans, qui débourse plusieurs millions d'euros par an pour renflouer Vinci, qui a construit un stade chez eux à cause du manque de fréquentation de ce stade. Tertio, et ça c'est un exemple parmi des centaines. Tertio, la notion de risque peut s'étendre à tous les risques pris par les salariés des entreprises. Il n'y a pas que les chefs d'entreprise et les capitalistes qui prennent des risques. Le risque de perdre son emploi et se retrouver à la rue, celui de voir sa jambe broyée par un chariot élévateur, etc. Et ces risques-là, bien sûr, ne sont pas rémunérés. Pour résumer, selon l'auteur, si le risque pris par le capitaliste peut être qualifié de condition pour percevoir le profit, il n'est en aucun cas la cause de son existence. Donc on n'a toujours pas répondu à la question « comment apparaît le profit ?». Darmanjat souhaite vraiment retourner à la source. Le profit est une valeur, il faut alors aller chercher la nature de la valeur, ou comme dit l'auteur, sachant que la production s'effectue au moyen d'un ensemble de facteurs de nature très différentes, terre, bâtiments, machines, travail humain, etc. La question revient à déterminer quelle est la substance commune à ces différents facteurs dont la quantité s'accroît au cours de la production et qui est mesurée par l'argent. Et on va essayer d'y répondre après un premier morceau de musique.
Mi esperanza amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, samba. Y te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tu que cante, deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será, el tiempo me va matando y tu cariño será. Soy polvareda que al viento va, samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más, samba, ya no me dejes, yo sin tu canto sono vivo, ma estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Alors, vous êtes de retour sur Radio Escapade dans Le Sens de l'Actu, l'émission de décryptage critique de l'actualité. Et ce mois-ci, j'avais envie de vous parler d'un truc un peu technique, mais hyper important pour moi, pour comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit. C'est le profit dans le système capitaliste. Donc, on en était à savoir, à essayer de comprendre quel est le dénominateur commun qui permet de résoudre l'équation d'où vient la valeur d'une marchandise, d'où vient la valeur d'un bien, produit, d'un service. Et donc, on était en pleine réflexion là-dessus. Donc, dans le livre de Christophe Darmanja, L'énigme du profit, on se demande à quoi correspond une somme d'argent qui est quelque chose finalement d'immatériel. Alors, Darmanja retrace un petit peu l'histoire de l'économie et des réflexions là-dessus. Donc, deux théories majeures ont été formulées pour répondre à cette question. La théorie objective et la théorie subjective de la valeur. Il y a plusieurs théories, mais elles peuvent être regroupées dans ces deux familles. On va voir, si je ne vous ai toujours pas perdu, que ces théories ont des implications radicalement opposées, si on admet l'une ou l'autre, et que du choix d'une des deux théories peuvent découler bien des choix politiques. La théorie objective de la valeur considère que, pour reprendre l'exemple de l'auteur, si une voiture coûte 5000 fois plus cher qu'une baguette de pain, ça n'est pas parce que l'humain en a décidé ainsi arbitrairement, mais c'est le résultat des conditions techniques de la production. Alors, désolé si vous entendez quelqu'un en fond, c'est Thierry qui est venu faire un tour à la radio.
Ça va là-haut ? Ça va à Saint-Romand.
Voilà, Thierry qui passe un coucou à Saint-Romand. J'en étais où ? Donc, la théorie objective de la valeur considère que, pour reprendre l'exemple de l'auteur, si une voiture coûte 5000 fois plus cher qu'une baguette de pain, ça n'est pas parce que l'humain en a décidé ainsi, mais c'est le résultat des conditions techniques de la production. Dans cette théorie, la valeur ne naît pas dans la conscience des individus, elle n'est donc pas subjective, mais elle naît du monde matériel. Des conditions techniques de la production. Il y a quelque chose dans la production de chacun de ces deux biens de consommation qui lui donne une valeur dans l'économie et qui est indépendant de la volonté humaine. Des économistes préclassiques, les physiocrates, ont tenté de chercher...
C'est de ouf, physiocrates.
Oh Thierry, va falloir me laisser parler de ça. Je sais que ça a l'air chiant. Alors je sais, ça a l'air chiant, mais ça a vraiment un sens derrière, ça a vraiment un intérêt de parler de ça. Les physiocrates ont tenté de chercher le fondement de la valeur dans la terre, en disant que seule l'agriculture et pas l'industrie permet l'augmentation de la quantité de matière. Ils ont pensé que l'agriculture était la seule activité productrice de valeur ajoutée, et que cette valeur, à l'origine, provient de la terre. Et ils pensaient que l'industrie, elle, ne faisait que de transformer de la matière, et donc elle ne faisait pas de valeur ajoutée. Mais cette théorie a vite été abandonnée avec l'apparition de l'industrie au niveau massif, quand on a vu que la production des usines créait des quantités de valeur ajoutée colossales qui ont considérablement enrichi les pays précurseurs de l'industrie, comme la Grande-Bretagne par exemple. Puis est arrivé Adam Smith, donc qui a une mauvaise réputation à juste titre dans les milieux de gauche qui défendent le droit du travail. Mais il a eu quand même l'intuition que le travail humain, sa quantité, pouvait être à l'origine de la création de valeur ajoutée. Mais tout cela restait confus. Ensuite, il y a eu David Ricardo, au tournant du 19e siècle, qui est venu corriger les approximations de Smith. Il a trouvé que si la voiture, pour toujours reprendre notre exemple, coûte 5000 fois plus cher que le pain, c'est parce que la voiture a demandé 5000 fois plus de travail pour la produire que la baguette. Il restait l'objection selon laquelle ces marchandises ont nécessité aussi des matières premières issues de la terre et du capital, c'est-à-dire des outils, des bâtiments dédiés à la production, etc. Pour ce qui est du capital, Ricardo a tranché par une réponse simple. Ces usines, ces boulangeries ont aussi nécessité du travail humain et on peut ramener leur valeur à une seule unité de mesure qui est la quantité de travail qu'il a fallu pour les produire. Le capital serait donc, dans cette approche, du travail passé ou du travail mort. Donc au final, le travail et le capital seraient en fait que du travail. Et donc, quant à la terre et aux matières premières qu'on y extrait, Ricardo a remarqué que pour pouvoir extraire des matières premières ou des produits agricoles d'une terre, il faut y effectuer des travaux d'importance. Défricher, amender, labourer, semer et irriguer pour l'agriculture. Et excaver, dynamiter, creuser des galeries, extraire et raffiner pour ce qui concerne l'extraction minière. Tout cela représente beaucoup de travail et c'est là, selon Ricardo, que se trouverait toute la valeur prétendument contenue dans la terre. En fait, c'est pour quand on extrait quelque chose de la terre, il y a du travail. En fait, ça serait là, selon la théorie objective de la valeur, que se trouverait toute cette valeur qu'il y a dans un produit agricole, dans un produit extrait à partir de minerais. En ce qui concerne la propriété foncière, la rente qu'elle occasionne sous forme de concession ne serait qu'un pur prélèvement, comme quand un brigand se place sur un pont et prélève un droit de passage. Ricardo aurait donc été le premier à dire clairement que derrière les prix se dissimule le travail humain. Vous êtes peut-être tenté de répondre que dans le monde réel, les prix paraissent complètement arbitraires et peuvent osciller du jour au lendemain, ce qui fait qu'on peut difficilement attribuer une valeur fixe contenue dans la marchandise. Mais les économistes qui ont étudié ça de près ont une réponse à ça. En réalité, même dans notre économie de marché où la valeur semble se négocier en permanence, les prix de toutes choses oscillent autour d'un point de référence et quand les forces de la spéculation, de l'offre et de la demande tirent les prix hors de ce point, les marchandises y sont toujours ramenées. C'est vrai qu'en regardant rapidement, on peut se dire le prix c'est complètement arbitraire, mais en fait il y a vraiment des forces qui font le prix. Et on est toujours en train de se demander qu'est-ce qui fonde cette valeur-là, qu'est-ce qui est à l'origine du prix d'une marchandise. Donc pour une production donnée, la production de pain, si l'offre est inférieure à la demande, le prix de cette marchandise sera plus élevé et dépassera ce point d'équilibre. La théorie objective de la valeur considérera que c'est seulement parce que la société consacre moins de temps qu'il n'en faut pour produire du pain, ce qui fera augmenter la valeur de l'heure du travail d'un boulanger. Il n'y a pas assez de gens pour faire du pain, donc quand un boulanger fait du pain, son pain va coûter plus cher, parce qu'en fait, c'est la valeur de son heure de travail qui va être artificiellement augmentée. Mais rapidement, ce qu'on observe, c'est que ce prix élevé de la marchandise, donc de l'heure de travail, va attirer plus de boulangers, parce qu'il y a plus d'argent à se faire, en fait, parce que pour autant de travail, on gagne plus, ce qui va faire revenir le prix du pain, et donc de l'heure de travail du boulanger, vers un point d'équilibre. Donc dans le capitalisme et avec son absence de régulation, les capitaux circulent sans cesse depuis les activités où la demande est inférieure à l'offre vers celle où elle est supérieure, ce qui crée une grande instabilité, il y a des grandes oscillations, et ça se traduit par énormément de pénuries, de prix exorbitants et de chômage généralisé. Bon, ça met un petit peu d'animation. Je suis en train de développer, donc il faut juste me laisser développer et je vais essayer de rendre tout ça clair. Thierry, c'est vrai, se fait un petit peu la voix des gens qui sont devant leur radio, qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ?» Quoi qu'il arrive, ce que dit la théorie de la valeur travail est qu'il existe bel et bien une force qui ramène les prix vers un point d'équilibre, c'est celle de la valeur du travail. Si une simple observation peut nous faire dire que la valeur des choses est volatile, quand on observe l'économie dans sa globalité, on voit bien que des forces objectives gouvernent la circulation de l'argent. Et d'après les tenants de la théorie objective de la valeur, David Ricardo, puis un certain Karl Marx, le seul dénominateur fiable qui permet de quantifier toute valeur, c'est le temps de travail. En fait, voilà, je ne vais pas aller dans beaucoup plus de détails complexes, parce que c'est encore plus complexe que ce que j'ai pu vous dire, mais au final, la conclusion, elle est assez simple. Et je remercie Darmanja pour nous avoir montré ça. C'est qu'en fait, la meilleure façon de déterminer toute valeur, la valeur de toute marchandise, de tout bien, de tout service, c'est d'y mettre derrière du temps de travail. Pourquoi donc vous embrouillez la tête avec tout ça? Parce que dans l'organisation actuelle des sociétés, des protagonistes, les capitalistes, manipulent et mobilisent des masses de valeurs colossales qui finissent par avoir un impact sur la vie de chaque individu. On en vient au cœur de la thèse. Comment se fait-il que ces individus disposent de toute cette manne si elle n'est que le résultat de millions d'heures de travail de millions d'individus? On en revient donc au profit. Si David Ricardo a compris que la valeur travail était déterminante en économie, il fait l'impasse sur cette question du profit. Autrement dit, il n'a jamais expliqué pourquoi, dans une production donnée, une fois payés les salaires, il reste quelque chose plutôt que rien. Un petit quelque chose qui finit par devenir les milliards de dollars avec lesquels le monde de la finance fait mumuse. C'est donc Karl Marx qui va éclaircir ce point. C'est peut-être son positionnement militant qui lui a permis de l'éclaircir quand des économistes plutôt bourgeois et favorables à l'accumulation de richesses semblaient y faire l'impasse. En effet, Marx s'est demandé comment se fait-il que, si les marchandises sont payées à leur juste valeur, il reste un excédent disponible pour le propriétaire des moyens de production, autrement dit pour le patron. Si on y réfléchit bien, cela veut forcément dire que parmi toutes les marchandises qui ont été achetées par le capitaliste afin d'assurer la production, il y en a une qui a été achetée moins cher que ce qu'elle vaut. Spoiler, cette marchandise, c'est la force de travail de l'employé. Je ne vous détaille pas tout ici, c'est vrai que je vous ai peut-être un peu perdu à un moment, mais il a fallu bien des calculs complexes, en tout cas à Karl Marx, pour parvenir à une conclusion simple à comprendre. Chaque travailleur qui n'est pas propriétaire des moyens de production, donc chaque salarié d'un groupe qui a un patron, un PDG, où il y a des actionnaires, et donc chaque travailleur qui vend donc sa force de travail à un capitaliste, voit une partie de la valeur de son travail lui échapper. Autrement dit, pour le dire encore plus simplement, le salarié, à partir d'un certain moment dans la journée, ne travaille plus pour obtenir son salaire, mais commence à produire une plus-value qui lui échappe définitivement et finit dans les poches du PDG et de tous les détenteurs de parts sous forme de profit. Et le mécanisme qui mène à cela est l'exploitation, qui est très précisément le fait de mettre de côté pour soi la valeur créée par un autre. Si je voulais vous en parler, ce n'est pas pour vous endormir, mais plutôt pour vous réveiller. Car accepter ce fait... Accepter cette conclusion comme quoi il y a le profit, tout cet argent que gagnent les milliardaires vient du travail qui est accaparé par eux, le travail de leurs employés. Accepter ce fait, ça a des implications littéralement révolutionnaires. N'avez-vous jamais eu l'intuition qu'un Bernard Arnault, un Vincent Bolloré, un Rodolphe Saadé ou un Martin Bouygues sont soit extrêmement productifs? Genre, ils ont chacun 300 paires de bras hyper efficaces. Soit, ils jouissent et disposent d'un argent, d'une valeur qu'ils n'ont pas eux-mêmes créée. Moi, j'ai eu cette intuition depuis un moment et je pense que je suis loin d'être le seul. L'économie marxiste apporte une réponse claire là-dessus. Elle permet de mettre les mots. Et c'est donc la réponse B, évidemment. Ces gens-là, derrière la dissimulation qui est une de leurs activités principales, s'accaparent gratuitement une part non négligeable du travail effectué par chaque salarié de leurs empires industriels. Et ils se l'accaparent via des dividendes, mais aussi via leurs salaires exorbitants, qui sont ce que certains appellent du profit déguisé en salaire. Sauf à considérer que la présence de Bernard Arnault à la tête de LVMH est indispensable à la production de sacs à main Vuitton fabriqués en Chine par des travailleurs sous-payés, mais qu'en plus son travail quotidien est extrêmement efficace comme s'il avait des centaines de bras pour fabriquer des sacs et des parfums dégueulasses en permanence, sauf à considérer cela, on en reviendra forcément à la conclusion que ce vieil homme n'est ni plus ni moins qu'un parasite qui prélève de l'argent sur chaque heure de travail de chaque employé de son groupe et de ses filiales. Alors, quelle conclusion en tirer? Quand on voit que ces milliards d'euros, une fois payés les beaux hôtels particuliers, les yachts et les jets privés, s'accumulent dans des comptes en banque à l'étranger où il devient impossible d'en récupérer une miette. Que penser quand nos responsables politiques semblent demander bien poliment que les ultra-riches contribuent à nos services publics et cessent d'organiser la pénurie? Que penser quand on a compris que cet argent n'est pas le leur et qu'on en aurait grand besoin pour mettre fin à la misère, financer la transition écologique et garantir la santé pour tous, entre autres? Est-ce qu'on va continuer à demander poliment, finalement? C'est ma façon de résumer le message que veut nous faire passer Christophe Darmanjat dans cet ouvrage limpide et nécessaire. Je vous invite vraiment à le lire pour comprendre mieux, et je suis sûr qu'en le lisant, vous allez comprendre mieux que ce que je vous ai expliqué là. C'était en tout cas une introduction à cette vulgarisation de l'économie marxiste. Et on va passer à deux brèves d'actu pour ce mois-ci. Alors, super profit, ah ben on est toujours dans le même thème en fait. Je considère que tout ce dont on parle dans cette émission depuis le début est lié par des mécanismes concrets. Donc je considère que tout ce dont on parle dans cette émission depuis le début est lié par des mécanismes concrets. Ce qui motive les guerres, les choix politiques, les projets d'infrastructures dévastateurs pour l'environnement. Il y a plein de choses qui lient tout ce que je vous raconte depuis le début, depuis le mois de septembre, quand on a parlé de l'autoroute A69 et de la lutte contre. Et donc j'aime bien faire des liens comme ça. Alors dans ces mini brèves d'actu, on va pouvoir analyser chaque événement sous le prisme du profit capitaliste, non pas qu'il soit le seul facteur, loin de là, mais il me semble presque omniprésent et très déterminant. L'idée, c'est pas de dire tout ce qui explique absolument tous les comportements humains et les grandes dynamiques, c'est le profit, mais il est un peu partout quand même. Donc ainsi, nous connaissons tous, pour revenir à l'actualité, le nom de Détroit d'Ormuz et cette guerre en Iran qui s'enlise et se traduit par des prix du carburant très élevés. Dans Alternative économique, le mois dernier, un article intitulé « Comment taxer les super profits pétroliers » se penche sur la question des énormes marges que se font les compagnies qui nous vendent du pétrole. Il démontre comment le fait qu'un quart de l'offre mondiale de brut soit inaccessible à cause du blocus dans le détroit d'Ormuz fait s'envoler le cours du baril, mais pas le prix de production du carburant. Donc puisque le coût de production du carburant toujours disponible reste le même, ou du moins augmente mais pour d'autres raisons, en fait ça c'est un autre sujet, mais le carburant qu'on dépense pour extraire un baril de pétrole ne fait qu'augmenter, mais ça c'est à cause de la raréfaction du pétrole, mais sinon le coût de production c'est pas la guerre qui l'a fait augmenter. La hausse du prix à la pompe ne peut s'expliquer que par une hausse des profits des multinationales qui extraient, raffinent et vendent le pétrole. Comme il y a moins de pétrole, ça fait augmenter le cours, mais le coût est le même, et donc tout cet argent en plus qu'on dépense pour acheter faire notre plein d'essence, et ben en fait ça va évidemment dans la poche des capitalistes. Et l'article de se demander comment on pourrait limiter ce racket avec l'outil qu'est la taxation des profits. Ou plutôt des super profits qui sont en fait les profits supérieurs à ceux habituels qui sont déjà très élevés. Donc au niveau européen, cela a été fait récemment après la crise énergétique de 2022-2023 suite à l'invasion de l'Ukraine. Un impôt exceptionnel de 33% sur les profits supérieurs à ceux des années 2018 à 2021 avait été prélevé. Ça me paraît timide, mais c'est déjà pas mal. J'ai pas vérifié, mais à votre avis, quel genre de député européen vote pour la taxation des super profits ? Plutôt France Insoumise ou plutôt RN ? En tout cas, c'est pas Bardella, puisque quand il y a un vote au Parlement, ben Bardet pas là. C'est son surnom officiel au Parlement européen. Mais il est quand même payé, ne vous inquiétez pas. On va parler d'un autre sujet, les présidentielles. Et oui, les présidentielles, puisqu'on parle de lui. Bardella, alors sa dernière actu, c'est qu'il a dit trèfle de plaisanterie, hein, au lieu de, je sais pas combien de personnes parmi vous pensaient qu'on disait trèfle de plaisanterie au lieu de trèfle de plaisanterie, mais voyez un peu le niveau du gars. Vous savez qu'un événement donc politique se profile en France, c'est les présidentielles de 2027, où il est annoncé comme un des favoris, et ben ça promet. Alors que les candidats macronistes se bousculent au portillon, on peut se demander si on veut encore comme gouvernant des lobbyistes qui ouvrent les vannes pour l'ubérisation du pays, détricotent le droit du travail pour faire de la France une terre de profit, encore le profit, quitte à massacrer l'État social et nos services publics. Est-ce que vous êtes chaud, vous, pour Édouard Philippe, l'ancien lobbyiste d'Areva, ou Gabriel Attal qui veut tous nous remettre au boulot alors que lui-même ne sait pas ce que c'est ? Vous êtes chaud pour Bardella qui fait le tour des sommets du patronat pour leur faire les yeux doux et leur faire son sourire qui lui a coûté une formation à plusieurs dizaines de milliers d'euros ? Ou alors plutôt une force politique qui propose un programme conséquent où le droit du travail et les services publics reviendraient sur le devant de la scène ? Pour une force qui propose une bifurcation écologique et qui oserait enfin demander des comptes aux profiteurs de guerre, par exemple ? Pour nous redonner un peu l'espoir d'une société plus juste. À vous de voir, on a un an pour réfléchir et moi je vais vous souhaiter un bel été et j'espère fort vous retrouver en septembre pour le sens de l'actu et pouvoir consacrer chaque mois assez de temps pour vous parler de choses et qu'on se cultive tous ensemble en passant à côté, enfin sans se servir des médias de milliardaires qui nous racontent souvent n'importe quoi. Allez, bel été, je vous laisse sur Scapé, El Vals del Obrero, grand classique. et bon été.
Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que están los cojones de aguantar a sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pingo.
Yo, vous êtes sur Radio Escapade, c'est Thierry. Bon, là, on vient d'avoir l'émission de Mathieu, là, qui repasse dimanche à 17h. Hein.
19h,
pardon.